Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous les amis et bienvenue à l'écoute du programme d'information de Radio Prague. Les principaux titres de ce bulletin: Conseil de l'Europe, la République tchèque confrontée au problème de la surpopulation carcérale, la directive européenne sur les armes critiquée par Prague, adoptée par les eurodéputés, et puis du football, Petr Rada est le nouvel entraîneur du Sparta. La République tchèque fait partie des trois pays où, après une amélioration, les prisons sont proches de la surpopulation. Cette évolution entre 2014 et 2015, pointée du doigt par le Conseil de l'Europe dans un rapport présenté ce mardi à Lausanne, est constatée également en Moldavie et en Turquie. Dans le même temps, la tendance était pourtant à la diminution du nombre de détenus en Europe, une baisse de l'ordre de 7%, notamment grâce au développement des peines alternatives à l'emprisonnement. Le taux d'occupation des prisons en République tchèque d'environ 93,2% en 2014 est passé à près de 100,2% l'année suivante. Avec 491 voix contre 178, les eurodéputés ont adopté à Strasbourg ce mardi la directive européenne sur les armes qui vise à renforcer la réglementation pour la détention légale d'armes à feu. Le texte était critiqué par le gouvernement tchèque et par des parlementaires tchèques qui avaient fait campagne contre lui. Le ministre de la Défense, Martin Stropnitsky, a réagi en indiquant que son ministère allait travailler à un projet de loi permettant aux citoyens tchèques de conserver certaines armes en accord avec la directive. Il s'est également dit satisfait que certains aspects absurdes, selon lui, de cette législation aient été retirés, citant notamment les mesures concernant l'équipement utilisé dans le cadre du paintball. Président de la commission chargée des affaires étrangères à la Chambre des députés, Karel Schwarzenberg s'est félicité du fait que Donald Trump, à la différence de certains présidents américains précédents, ait commencé à s'intéresser au règlement du conflit israélo-palestinien dès son entrée en fonction à la Maison-Blanche. Lundi, l'ancien chef de la diplomatie tchèque a fait part de sa satisfaction au ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, Riyad al-Maliki, qui était en visite à Prague. À cette occasion, il a précisé que si la République tchèque compte parmi les alliés traditionnels d'Israël, le sort des Palestiniens ne lui est pas indifférent pour autant. Culture maintenant, la direction du Théâtre National de Prague a annoncé le lancement de la rénovation du bâtiment de l'Opéra de l'État situé rue Vilsonova au centre de Prague. Effectué par la société Ortif, les travaux de rénovation devraient durer 27 mois et coûter près de 32 millions d'euros. Le temps des travaux, les spectacles de l'Opéra d'État seront donnés sur d'autres scènes pragoises, par exemple au Théâtre Musical de Karaline. Le président de la République, Miloš Zeman, nomme ce mardi Eva Zajimalova, présidente de l'Académie des sciences. Spécialiste de l'anatomie et de la physiologie des plantes, elle a été élue à la tête du principal institut scientifique tchèque en décembre dernier par le Conseil scientifique académique. Du football maintenant, Petr Rada, ancien sélectionneur de la Reprezentacja entre 2008 et 2009, est le nouvel entraîneur du Sparta Prague. Il remplace la paire constituée de Tomáš Požar et David Holoubek, qui a été remercié lundi en raison des mauvais résultats du club. Après une nouvelle défaite dimanche à Mladá Boleslav, sur le score de 1-0, le Sparta semble ne plus être en mesure de jouer le titre cette saison. Le club de la capitale, justement éliminé de la Ligue Europa par les Russes de Rostov, est troisième du championnat tchèque avec 9 points de retard sur le premier, le Slavia Prague, et 5 sur le deuxième, le Viktoria Plzeň. On termine avec la météo. Ce mercredi, jour de la fête des Ida, le ciel est couvert sur l'ensemble de la République tchèque et les températures maximales ne dépassent pas les 13 degrés. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous proposait Pierre Ménian. Merci également de rester à notre écoute car notre programme continue dans un court instant.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague. Une actualité dont Pierre Maignan vient de nous résumer l'essentiel. Une actualité au sommaire de laquelle figure également le décret dit friandise, un décret entré en vigueur en début d'année qui doit permettre d'améliorer les habitudes des élèves tchèques en matière d'alimentation. Tout un programme, comme nous l'entendrons dans quelques instants. Nous vous emmènerons également à la maison municipale. La maison municipale, un des plus beaux cafés sécessionnistes. On va y arriver à Prague et même en Europe, paraît-il. Et puis, comme chaque mardi, la seconde moitié de cette émission sera réservée à la rubrique Panorama, une rubrique qui nous permettra de découvrir le meilleur film documentaire de l'année 2016. Un film étonnant, comme vous le découvrirez. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Depuis le début de cette année, les écoles en République tchèque sont tenues de ne plus vendre de produits alimentaires considérés comme trop sucrés, trop salés ou trop gras et donc nocifs à la santé. Appelé Pamlskova Virlashka en tchèque, ce décret friandise, si vous préférez en français, vise à améliorer les habitudes des élèves en matière d'alimentation. En pratique, toutefois, tout n'est pas si simple. Les boissons ou aliments proposés aux élèves doivent permettre une offre alimentaire diversifiée, favorisant une liberté de choix en privilégiant l'eau, les purs jus de fruits, le lait ou les produits laitiers demi-écrémés, le pain, les céréales non sucrées, en évitant les produits à forte densité énergétique riches en sucre et matières grasses. Voilà ce que l'on peut lire sur le portail EduSchool du ministère de la Santé français au sujet de la collation matinale à l'école. Limiter ou éviter les apports énergétiques excessifs dans l'alimentation des plus jeunes, c'est également ce que souhaite le ministère de la Santé tchèque et comme l'explique sa porte-parole Jarmila Balajova, c'est là le rôle de l'institution où les enfants, une fois sortis du cercle familial, passent le plus de temps.
Škola jako instituce je spoluzodpovědná za formování správných stravovacích návyků a zásad zdravého života.
L'école est co-responsable des habitudes alimentaires et des principes de style de vie que prennent et adoptent ses élèves. Si nous donnons aux enfants et aux adolescents la possibilité d'acheter des produits nocifs pour la santé dans des distributeurs automatiques ou dans les cafétérias à l'intérieur même des établissements scolaires, il est difficile de les en empêcher. La majorité des enfants prennent goût à ce type de produits et ce sont malheureusement des mauvaises habitudes qu'ils conservent le plus souvent pour le reste de leur vie.
Depuis l'entrée en vigueur du décret à l'automne dernier et son application dans les écoles depuis janvier dernier, les sociétés alimentaires ont été contraintes de s'adapter et de revoir la composition de certains de leurs produits, et ce de façon à ce que ceux-ci puissent être encore distribués dans les établissements scolaires. Porte-parole de la Chambre alimentaire, Dana Vecherjova, affirme cependant que nombre des sociétés concernées considèrent que les normes exigées sont trop strictes et difficiles à respecter.
Les producteurs sont confrontés à de multiples complications. La très grande majorité des produits qui sont fabriqués et sont distribués tout à fait normalement dans les commerces ne répondent plus aux exigences définies dans le décret.
Ces mêmes sociétés se plaignent également des frais supplémentaires qu'engendre le respect des nouvelles mesures, mais Jarmila Balajova du ministère de la Santé l'assure, le contenu du décret restera tel qu'il est actuellement.
Les valeurs nutritives des différents produits ont été définies par le ministère de la Santé en coopération avec le chef des services d'hygiène du pays. La seule modification que nous envisageons d'apporter au décret est de financer les goûters des élèves de façon justement à améliorer leurs habitudes alimentaires et faire en sorte que ce qu'ils mangent et boivent soit bon et appétissant.
A zdravým stravovacím návykům a současně to jídlo bylo chutné.
Par ailleurs, toujours dans le cadre du même décret, le ministère de l'Agriculture a récemment fait savoir que les élèves tchèques recevront, à compter de la prochaine rentrée, du lait et des produits laitiers non aromatisés. Les parents souhaitant que leurs enfants puissent consommer des produits aromatisés devront y aller de leur poche. Des produits laitiers aromatisés ou non aromatisés, vous en trouverez également, pas seulement dans les écoles, mais aussi dans ce qui est pour certains un des plus beaux cafés sécessionnistes de Prague, voire même tout simplement l'un des plus beaux cafés de style Art Nouveau en Europe. Le café de la maison municipale propose de découvrir une ambiance du début du XXe siècle. Situé sur la place de la République, juste à côté de la tour Poudrière, l'endroit fait partie de ces cafés illustres de ces cafés qui, tout au long du siècle dernier, ont constitué d'importants centres de vie culturelle et sociale tchèque. C'est ce que nous explique Alžbeta Rožková.
Il est difficile de trouver à Prague un autre café dont les murs sont plus imprégnés d'histoire que ceux du café de la maison municipale. Comme son nom l'indique, l'établissement a été ouvert en 1912 au rez-de-chaussée de la célèbre maison municipale Obecný dům en tchèque, important centre à l'époque des idéaux nationaux. Mais l'histoire du lieu remonte plus loin encore, puisque la maison municipale a été construite à l'emplacement de l'ancien palais royal. Celui-ci a servi de principale résidence des rois de Bohême jusqu'à ce que Vladislav IV de Bohême ne déplace son siège au château de Prague en 1484. Actuel directeur commercial du café, Tomáš Bílek revient sur l'histoire de cet ensemble palatin qui comprenait autrefois aussi des bains, une fosse aux lions ou encore des jardins.
Později tady byla kasárna a až později, když...
Les locaux ont ensuite servi de caserne. Ce n'est que beaucoup plus tard, quand les Pragois ont décidé de construire sur ce lieu un bâtiment représentatif, que les casernes ont été rasées. La maison municipale et le café ont été ouverts en 1912. Le bâtiment a ensuite été témoin de plusieurs tournants historiques. La création de la nouvelle République tchécoslovaque a été proclamée symboliquement dans les salles de la maison municipale en 1918.
C'est également à la maison municipale que se sont tenues, suite à la révolution de velours en novembre 1989, les premières rencontres entre les représentants du gouvernement communiste et les membres du Forum civique, avec à leur tête le futur président Václav Havel. La maison municipale est un petit bijou de la sécession viennoise. Les principaux peintres et sculpteurs de la sécession tchèque, les Mikuláš Aleš, Max Švabinský, František Ženíšek, Josef Mařatka, Josef Václav Myslbek et autres Alphonse Mucha, ont participé à sa décoration. Et bien que plus d'un siècle se sont écoulés depuis son ouverture pour Tomáš Bílek, cet endroit conserve toujours cet esprit qui faisait son charme au début du XXe siècle.
Tak v kavárně, když vejdete do kavárny, tak proti vám na stěně je...
En entrant dans le café, vous voyez sur le mur opposé une fontaine avec le relief d'une nymphe du sculpteur Josef Pekárek. À l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer des lustres inventés par František Křižík, ainsi qu'une partie des équipements datant de 1912 qui permettent à l'établissement de conserver son style authentique. Il s'agit notamment de boxes en acajou avec des bancs recouverts de cuir. Les chaises et les fauteuils sont des répliques. Seuls quelques exemplaires originaux ont pu être conservés et ceux-ci sont cachés dans les archives.
Autre curiosité, si de nombreux établissements ont été fermés suite à l'arrivée du pouvoir des communistes en 1948, le café de la maison municipale est lui toujours resté ouvert. Grâce à son emplacement dans le centre de Prague, le café est aujourd'hui très prisé des touristes, Tomáš Bílek.
Celá ta kavárna je veliký, krásně.
Le café est formé d'un grand espace lumineux. Vous avez vraiment l'impression de vous plonger dans l'atmosphère de la Première République. Il est très fréquenté des touristes étrangers dont beaucoup viennent seulement pour prendre l'intérieur en photo puis repartent aussitôt. Il est possible de participer aussi à une visite guidée de la maison municipale. Le bâtiment est joliment rénové. Il y a un grand restaurant Pilsen au sous-sol et un restaurant français est situé en face de notre café au rez-de-chaussée. Au premier étage se trouve la célèbre salle Smetana dans laquelle joue l'orchestre symphonique de Prague ainsi que d'autres salles qui accueillent différents événements culturels, conférences, congrès ou concerts. Ať jsou to různé konference,
kongresy, samozřejmě večer koncerty. Le café peut accueillir quelques 150 clients. 80 places se trouvent aussi dans une petite galerie au premier étage. Outre une large offre de pâtisseries, y compris des gâteaux faits maison, la carte propose également quelques plats chauds tels que poissons, salades et spécialités tchèques.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de cette émission. Comme chaque mardi, on retrouve maintenant la rubrique Panorama, une rubrique dans laquelle il sera question du meilleur film documentaire tchèque de l'année 2016. C'est un succès confirmé, déjà récompensé récemment du Lion du meilleur film documentaire tchèque de l'année 2016. Normalny autistický film, littéralement en français un film autiste normal, a également décroché le prix du jury dans la catégorie section tchèque dans le cadre de Jeden svět, un monde, le festival international du film documentaire sur les droits de l'homme qui se tient actuellement à Prague. Découverte de ce long métrage de Miroslav Janek qui entre en profondeur dans les pensées de 5 enfants et adolescents autistes et ce sans les réduire à leur handicap. Avec Lucille Meunier.
Panorama.
Panorama.
Českého leva za nejlepší dokumentární film získává Normální autistický film režiséra Miroslava Janka.
Pour cette 19e édition du plus grand festival du genre en République tchèque, organisé par l'ONG Čovliek ve Tisni, 12 films concouraient dans la catégorie section tchèque. Les réfugiés, la maladie ou encore la guerre, les sujets traités dans ces documentaires sont variés. Le thème de la différence et de son acceptation est lui aussi bien représenté, avec par exemple Imenuni Serladovi Bison, Mon nom est le buffle affamé, un film étonnant dans lequel Yann, le héros du film, déjà aveugle de naissance, perd peu à peu son audition. Il se lance donc alors avec sa femme dans une expédition aux États-Unis pour y rencontrer un chef navarro qui, comme il l'espère, pourra le sauver de l'éternel silence. Kumbaya, yo, kumbaya, 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 yo. Un film autiste normal peut, lui, se targuer d'être l'héritier d'une importante tradition cinématographique sur l'autisme. Depuis Un enfant attend, le film de John Cassavetes sorti en 1963, le grand public se souvient de Rain Man et des prouesses de Dustin Hoffman dans le rôle d'un autiste au comportement répétitif. Personne n'a non plus oublié l'immense Tom Hanks dans Forrest Gump. Cette richesse cinématographique est aussi liée à une médecine plus informée sur le sujet. Les explications psychanalytiques ont tout d'abord été abandonnées avant que l'appellation « trouble envahissant du développement » ne soit adoptée en 1975 pour désigner l'autisme. Un changement important dans la reconnaissance du handicap.
Celkově ten vzhled je takovej surrealistický a ty takový blbosti děláš, ne?
Alors Lucille, vous allez maintenant nous en dire plus de détails sur ce film, Normalny Autistitsky, un film, on le répète en français, un film autiste normal. Lukasz est bavard et cinéphile, Denis, un virtuose, introverti, ou encore Maïda, une poète qui souffre, elle, de sa différence. Les 5 enfants et adolescents qui apparaissent dans le documentaire de Miroslav Janek ont pour point commun d'être atteints du syndrome d'Asperger, une des formes les moins sévères de l'autisme. Tous peuvent communiquer plus ou moins normalement et sont dotés de certains talents. Alors, quel est donc le message du film, s'il y en a un ?
Alors, le message du film, c'est déjà poser la question, qu'est-ce qu'être normal ? Maïda, une protagoniste du film, affirme ainsi « Pour la société, je suis déficiente, mais pour moi, c'est elle qui l'est. Moi et la société, nous sommes handicapés l'une envers l'autre. » Briser l'antagonisme entre les neuronormaux et les neurodifférents, voilà l'ambition de Miroslav Janek, tout comme celle de remettre en question le concept de normalité. C'est aussi un film parfois teinté d'humour, comme lorsque Lukasz tente en vain, à son grand étonnement, d'appeler le président de la République. Le montage aurait pu rendre l'ensemble mélancolique, mais au contraire, le film est teint d'un relatif optimisme.
Hello, dobrý den. Já jsem chtěl zeptat, prosím vás. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli bych mohl mluvit s panem prezidentem.
Le film Lucille se concentre plus particulièrement sur le syndrome d'Asperger et insiste sur le fait que ce n'est pas une maladie.
En effet, Guillaume, ce n'est pas une maladie, mais un trouble neurodéveloppemental qui fait partie des troubles envahissant du développement. Surtout, l'autisme regroupe des réalités bien différentes. Il y a le syndrome d'Asperger, certes, mais aussi l'autisme infantile, plus classique et souvent accompagné d'un retard mental et d'une incapacité à communiquer. Dans le film, il est uniquement question du syndrome d'Asperger.
Alors justement, la question se pose, le film a-t-il été critiqué sur ce point ?
Alors oui, en effet, certaines critiques lui reprochent le choix du syndrome d'Asperger qui ne reflète pas la réalité de l'autisme. La majorité des autistes possèdent en effet un retard mental, alors que le syndrome d'Asperger est une exception. Face à ces critiques, Miroslav Janek a répondu que son but n'était pas de faire un portrait général de l'autisme. Il voulait davantage souligner les différences de comportement entre des personnes atteintes du même syndrome.
Budeme si třeba teď povídat, co Aspergerův syndrom vlastně umí.
Mám talent na malování také, ale hlavně mám talent na rozbíjení věcí.
Et parmi tous ces personnages dont nous venons d'entendre les voix de quelques-uns d'entre eux, quelle différence le spectateur remarque-t-il ?
Alors, les 5 enfants sont très différents. Lukasz, qui ouvre le film, est un enthousiaste extraverti. On le voit suivre une conférence sur l'autisme sur son smartphone au début. Quelque peu distrait, il grimace lorsqu'il semble en désaccord, fait des blagues et regarde fixement la caméra. Il réalise également des vidéos amateurs sur YouTube avec un ami. Parallèlement, Lukasz souffre d'une anxiété chronique qu'il tente d'atténuer en mâchant un objet, comme lorsqu'on le voit manger du polystyrène. À l'opposé, Maïda est une adolescente dont l'autisme a été diagnostiqué tardivement, à l'âge de 13 ans. Filmée sur le bord d'une voie ferrée, comme si elle voulait se suicider, elle raconte avec froideur son mal-être et sa rage à la caméra. Sa rédemption, Maïda l'a trouvée dans la poésie, plus précisément dans le rap, dont les mélodies accompagnent le documentaire. Le cas le plus extrême est sans doute celui de Denis, un virtuose qui ne parle jamais face à la caméra. En revanche, sa voix et son piano guident le film du début à la fin.
Peut-on dire que le film confirme chez ces enfants une intelligence qu'on pourrait qualifier de supérieure à la moyenne, ou est-ce là, Lucille, exagéré ?
Alors, la question se pose. En effet, je parlais de Denis plus tôt, qui maîtrise son piano et sa voix à la perfection. Il y a aussi la petite Mariamka, dont le niveau d'anglais pour son âge est surprenant, alors que ce n'est pas sa langue maternelle. À l'école, avec ses parents, mais surtout face à elle-même, elle s'exprime en anglais. Aussi, lorsqu'elle est mal à l'aise, elle prétend ne pas comprendre le tchèque et se perd dans ses pensées, dans sa langue d'adoption. Il y a donc là une sensibilité et un talent qui les démarque certainement. Une intelligence peut-être pas. Pour revenir sur les différences, Mariamka a une toute autre personnalité que son frère Ahmed, lui aussi autiste. Plutôt introverti, elle n'est pas très à l'aise devant la caméra. Ahmed, quant à lui, est beaucoup plus bavard et même infatigable, comme lorsqu'il échange avec le réalisateur à propos d'une théorie selon laquelle l'intelligence des extraterrestres aurait été transférée aux autistes.
Précisons encore que le film Jeden Svět, One World en anglais ou Un Monde en français, un festival dont Lucille Meunier vient donc de nous présenter le film lauréat dans la section tchèque, le film intitulé Normální autistický film, on va y arriver, un film autiste normal. S'achève à Prague ce mercredi. Le festival se déplacera ensuite dans plus de 30 villes tchèques avant ses désormais traditionnels échos. Ce sera à Bruxelles du 24 avril au 4 mai prochain. C'est ainsi que s'achève pour aujourd'hui le bloc actualité préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de Radio Prague, de préférence en français ou dans une autre langue, c'est à vous de choisir. En tous les cas, à très bientôt. Ahoy.